du vent, le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous sommes à Lyon à l'occasion du sommet climat et territoire qui a réuni 800 acteurs de la société civile de 80 pays, tous engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Et le continent africain était très représenté lors de ce sommet. La preuve avec les invités qui m'entourent. Hakima El Haïté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre de l'Environnement du Maroc, future présidente de la 22e conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroulera donc l'année prochaine à Marrakech. À vos côtés, Khalifa Sall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Dakar, Mahamane Siraj Moussa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la région de Maradi au Niger et Mohamed Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la région de Tombouctou au Mali. Alors, Hakima El Haïté, vous apprêtez donc à recevoir l'année prochaine et à présider cette 22e conférence des Nations Unies sur le climat, qui sera celle de l'action, dites-vous. Alors, en quoi ce sommet ici à Lyon est important dans le processus ?
Extrêmement important ce sommet, dans la mesure où la déclaration de ce sommet est le texte qui a été signé par le plus grand nombre d'associations et d'acteurs non gouvernementaux à travers le monde. Dans l'histoire des négociations climatiques, c'est la première fois qu'on assiste à un engagement aussi intense, non seulement en termes de paroles, mais en termes d'action, étant donné que c'est que les réseaux, que les collectivités territoriales signataires de cette déclaration se sont engagés sur des chiffres de diminution des gaz à effet de serre à hauteur de 15% de l'effort mondial, ce qui est colossal. C'est un sommet important également à mon sens parce que pour la première fois, on allie aux négociations des partenaires d'excellence de par leur action sur les territoires et au niveau local. Vous savez que 70% des émissions des gaz à effet de serre au niveau mondial sont émises au niveau des territoires. Et donc si nous voulons une réelle faisabilité et opérationnalité des efforts de lutte contre les changements climatiques, c'est bien au niveau des territoires qu'il faut aller les chercher. Parce que d'abord, ils sont des émetteurs, mais aussi ce sont des réservoirs d'excellence, de savoir-faire, de technologie, d'innovation et aussi de ressources financières et de ressources qualifiées sur le plan humain. Et donc, je pense que c'est un sommet extrêmement important qui, personnellement, me donne beaucoup d'optimisme quant à la faisabilité et la réalisation des objectifs de l'accord de Paris. Et donc aujourd'hui, que l'accord de Paris, que l'accord réussisse ou qu'il ne réussisse pas, nous avons une mobilisation territoriale qui est exceptionnelle, une mobilisation des entreprises, et on l'a vu au sommet du climat et des entreprises à Paris, qui est exceptionnelle. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hier, on a entendu le maire de Lyon qui a parlé d'un quartier à énergie positive, c'est exceptionnel.
Quartier où nous sommes d'ailleurs.
Où nous sommes. On a entendu la mairesse de Genève qui a parlé de toutes les pratiques d'économie d'énergie qui ont permis une économie de 50% d'énergie au niveau de sa ville. Et donc, les territoires sont en action. Et ça, c'est exceptionnel.
Et c'est aussi vrai dans les pays en voie de développement, parce qu'on a besoin d'exemples. Khalifa Sall, la région de Dakar a débuté les concertations pour son plan climat en juillet 2013. Il y a 47 fiches d'action qui ont été définies sur 7 grands axes, le bâtiment, la mobilité, la sécurité alimentaire, l'énergie, la qualité de l'air. Alors depuis, l'échelon régional a disparu au Sénégal, mais la ville de Dakar poursuit la mise en œuvre de ce plan climat. C'est une priorité pour votre ville aujourd'hui ?
Je vous remercie d'abord et je voudrais dire que les gens et les autres qu'ils puissent s'interroger de la participation de l'Afrique et des pays en développement dans le processus, c'est pour nous ça qui nous inquiète, parce que nous avons conscience que nous sommes une partie prenante de ce qui se passe aujourd'hui. Ce que fait Dakar, vous avez rappelé ce qui se fait à Lyon, à Genève, cela se fait à Maradi, à Tombouctou, à Kuala Lumpur, c'est-à-dire aujourd'hui ce sont les territoires, les pouvoirs locaux qui ont décidé de s'impliquer pour prendre en charge leur devenir, parce que la manifestation de ces changements climatiques s'opère d'abord à la base.
Alors c'est surtout pour une quartier, ville comme Dakar qui est quand même très particulière géographiquement.
Voilà, donc dans ce cadre-là, Dakar a depuis plus de 15 ans avec la région Île-de-France, avec l'AREN et aujourd'hui avec l'AFD, fini d'élaborer son plan climat. Ça a été un processus intégré un processus inclusif et participatif. C'est de la base au sommet, dans les quartiers, dans les maisons, que nous avons mobilisé, sensibilisé, organisé la participation des populations. Ensuite, compte tenu de la particularité de Dakar, nous sommes un petit territoire, 550 km². Le tiers de la population du Sénégal, c'est-à-dire environ 5 millions d'habitants, une zone magmatique, une zone côtière et une zone qui fut jadis verte, éprouvée par 20 ans de sécheresse. Et aujourd'hui, avec une population migrante, parce que ce qu'on appelle l'exode rural chez nous, les populations rurales qui sont venues à Dakar, donc autant de problèmes et de situations qui ont fait que le plan climat Dakar a dû donc consolider, réadapter avant de solutionner.
Mais par exemple, l'un des gros enjeux, c'est le bâtiment. Parce que, comme dit Pierre Radan, vous avez eu le mauvais goût d'être colonisé par des pays tempérés juste avant un changement climatique. Donc du coup, vous avez adopté des modes d'habitat qui ne sont pas du tout adaptés à votre climat. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le bâtiment ?
C'est le type de l'habitat d'abord au Sénégal. D'abord, l'établissement humain. C'était une zone verte avec des lacs et des zones d'agriculture. 20 ans de sécheresse. On fait que plus de 2 millions de personnes ont quitté la zone rurale pour venir s'installer n'importe comment à Dakar. Avec le retour de la saison du cycle hydrique, donc de la saison des pluies, nous connaissons des inondations à Dakar parce que les populations sont dans les zones d'eau. Ensuite, le type d'habitat, comme vous dites, nous sommes une ville horizontale. Les gens ne vivent pas en hauteur à Dakar, ça s'allonge. Chacun va avoir son 150 m². Alors, donc ce type d'habitat est aussi un handicap. Ensuite, s'y ajoute ce que vous dites, la construction, le bâtiment, le ciment non adapté à une zone chaude, tout cela pose problème. De telle sorte que le challenge est quoi ? C'est d'abord de mieux prendre en charge l'établissement humain. Il faut des quartiers viables qui sortent des zones d'eau pour gérer les inondations. En plus de mettre en place le réseau de gestion des eaux de pluie, et des eaux usées, il nous faut dégager les voies d'eau et permettre à la ville de respirer. Donc il faut restaurer les zones vertes comme la zone des Niaï. Il faut enlever les zones inondées qui sont occupées et il faut repenser le type d'habitat. Et c'est ça l'appel que je lance surtout aux Dakarois. Il faut qu'ils considèrent que les constructions pour des maisons individuelles dans un si petit territoire avec un si grand nombre de populations, ce type d'habitat est révolu.
Mais du coup, vous prenez quel type d'habitat ? Parce qu'il y a une norme née d'ailleurs grâce à ce plan climat de la région de Dakar et qui a été adoptée par l'ensemble des pays de la région sur l'habitat maintenant. Cette norme, en gros, dit quoi simplement ?
Il faut d'abord que les gens utilisent les matériaux locaux. C'est d'abord ça. Nous sommes un pays d'argile. Et l'argile a été démontrée comme étant source pour capter la chaleur et faire la preuve de sa solidité. Ensuite, il faut aller en hauteur. Il faut beaucoup aller en hauteur pour créer les espaces un peu pour respirer. Il y a ensuite un autre problème qui se pose à nous, c'est le problème de la mobilité. Dans un espace aussi étroit, le type de mode de circulation, les véhicules et autres, ne sont pas les mieux adaptés. Ils sont d'un certain âge. Donc l'émission de gaz non souhaitée est un vrai souci.
Hakim El Haïté, on pourrait continuer à énumérer comme ça tout ce qui se fait à Dakar. Finalement, votre plan climat est l'équivalent du plan climat de la région Île-de-France. C'est ça qui est intéressant, c'est que les pays en voie de développement, aujourd'hui, quand ils ont les financements, on en reparlera tout à l'heure, sont à la pointe.
Écoutez, nous au Maroc, nous avons fait une stratégie climat il y a quelques années. Ce qui est important, c'est que notre lutte contre les changements climatiques a commencé dans les années 60 déjà, parce que quand nous avons ressenti la pénurie des ressources en eau, on a été obligé de s'adapter pour se développer. Donc on a mis en place dans les années 60 une politique des barrages. Par la suite, on s'est encore rendu compte qu'il fallait économiser, donc on a mis en place le plan marocain vert, qui est un plan agricole pour la reconversion des réseaux d'irrigation en goutte à goutte pour économiser vélo. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était en plein dans une stratégie sectorielle de développement durable. Dans les années 2008, on a dit c'est fini, il faut passer à la convergence des politiques publiques et asseoir une réelle vision de développement durable au niveau national qui va chapeauter tous les départements ministériels et toutes les politiques publiques et intégrer à l'intérieur de ces politiques publiques la durabilité, le facteur de changement climatique comme un facteur structurel au niveau du territoire national et également la croissance verte. Donc on est passé dans une trajectoire de durabilité qui est maintenant la base de la politique gouvernementale nationale.
Et en résultat, le Maroc a rendu sa contribution le 2 juin dernier en annonçant une réduction de gaz à effet de serre de 13% d'ici 2030 et c'est un minimum
de 32% avec 13% qui n'est pas conditionné par un financement étranger. C'est extrêmement important. C'est dire combien les politiques marocaines intégraient déjà sur le budget général les investissements nécessaires pour s'adapter et pour aller vers des mesures d'atténuation du climat. Bien sûr, on peut être plus ambitieux, mais ça dépend des efforts de la communauté internationale à nous aider à aller plus loin au niveau de nos ambitions.
Vous avez par exemple été remarqué par votre politique en matière de développement des énergies renouvelables.
Absolument. En 2008, nous avons développé la politique des énergies renouvelables au Maroc. Vous savez que le Maroc est un pays importateur d'énergie fossile et donc 97% de nos énergies étaient importées. Aujourd'hui, nous sommes sur un grand chantier de renouvelables et nos objectifs sont de faire en sorte que les énergies renouvelables contribuent à hauteur de 42% dans nos mix énergétiques en 2020. Nous avons déjà commencé. Nous disposons au Maroc de la plus grosse station des énergies solaires au niveau mondial. Nous avons lancé...
C'est la station Nour près de Ouarzazate.
Voilà. Nous avons également des objectifs en termes d'énergie hydroélectrique. Nous voulons atteindre les 2000 MW à l'horizon 2020 et d'éolien également. Nous avons un parc énergétique éolien dont une grande partie a été réalisée et qui escompte également arriver à 2000 MW à l'horizon 2020. Et donc, je pense que ce sont des solutions marocaines adaptées à une situation fortement impactée par les changements climatiques et avec des contextes très similaires à nos confrères africains. Et c'est pour ça que nous avons une politique enclenchée par notre roi qui est d'aller vers la coopération sud-sud. Et tous les pays qui sont là sont nos partenaires, Sénégal notamment, le Mali
et le Niger.
Le Niger également, voilà.
Je disais que F. Il fait trop chaud ici.
Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Global warming, the cry is out. The earth is getting hotter without a doubt. The glaciers are melting in the north and south. Our lives are about to change. There's only one way to survive this. You got to purify your body, get rid of toxins. Pray unto the Father who lives within. The ego you have to tame. Survival is definitely for the fittest. It's not for who get the money or the fame the quickest. Just according to your actions and the way you live it. That is how the Most High are gonna give it. The sea level is rising, watch the table a turn. Plus the ring of fire around the coastal regions will burn. Check the kind of food you eat and type of drinks you consume. Listen up to the lyrics and the tune. Microorganisms are getting replaced. From the mountain to the sea, it is a different age. It's a time of revelation prophesied by the sage. The surge is the reason why you are made. The heat beneath the ocean, it a bring a hurricane. Attitude inside a people out of context and lame. It's the signs of the times, so what surprising news. Things are occurring in sets of twos. Global warming, the cry is out. The earth is getting hotter without a doubt. The glaciers are melting in the north and south. Our lives are about to change. There's only one way to survive this. You got to purify your body, get rid of toxins. Pray unto Selassie, I will live within. The ego you have to tame.
The hotter the earth, the more bacteria spread. Many more will have to suffer, plenty more are good dead. In the present and the future, no dramatic events. Purification time is so intense.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes installés à l'hôtel de la région Rhône-Alpes avec nos invités à l'occasion du sommet climat et territoire qui a réuni plus de 800 acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre les changements climatiques pendant deux jours à Lyon. Mohamed Ibrahim, je rappelle que vous êtes le président de la région de Tombouctou au Mali. Alors, est-ce que vous faites le lien entre la désertification qui a petit à petit grignoté votre région depuis, je parle souvent de Cotrôle, mais disons une cinquantaine d'années, et l'insécurité qui y règne aujourd'hui?
La région de Tombouctou est la région la plus vaste du Mali, avec 497 000 km², très peu peuplée, un climat très aride, et depuis 1973, que le Sahel a connu la plus grande sécheresse, la désertification a continué à gagner du terrain. Donc, ce qui a fait que les terres cultivables ont été entamées par le déplacement du sable, les lits des fleuves et aussi l'habitat. Donc, à partir de ce moment, on avait un mode de vie nomade. On est des transhumants, on est des cultivateurs et on pratique l'élevage extensif. Alors, on a perdu les pâturages, ce qui fait qu'on a perdu des millions de têtes. Et on est un des pays de l'Afrique occidentale qui a le plus grand nombre de cheptels. Donc on a perdu une bonne partie de notre cheptel et on a perdu les terres cultivables puisqu'on utilisait l'agriculture inondée, l'agriculture de deux crues avec le fleuve Niger qui s'étalait pendant les crues et qui s'est retiré, donc on cultivait. Ce qui a fait que notre mode de vie a totalement changé. Donc une partie de la population s'est adaptée à la nouvelle situation, mais une bonne partie n'a pas pu s'adapter puisque a perdu tout son capital. L'insécurité aujourd'hui, elle est due à quoi? Elle est due au fait qu'il y a des milliers de personnes qui ont tout perdu. Et soit ils avaient le choix entre immigrer ou entre se réadapter, ce qui n'a pas été donné à tout le monde, puisque à l'époque, il n'y a pas eu de politique d'accompagnement pour accompagner les gens à se réadapter à ce nouveau contexte. Et alors, à côté de cela, la bande sahélienne est devenue un point de passage des trafiquants, et d'où ils ont trouvé un terreau fertile et ils ont pu recruter dans la jeunesse.
Et alors aujourd'hui, quelles sont vos armes pour justement lutter contre ces désertifications? Est-ce que vous avez de l'aide internationale? Parce qu'on parlait des financements tout à l'heure.
Alors, l'aide internationale, la première aide qu'on a, c'est que nous sommes dans le cadre de la coopération décentralisée avec la région Rhône-Alpes et la région Auvergne. La région Rhône-Alpes, depuis 1984, après la deuxième grande sécheresse, a commencé à nous accompagner avant même la décentralisation au Mali. Et en 1999, quand la décentralisation a commencé au Mali, nous avons signé un accord de coopération avec la région Rhône-Alpes.
Et qu'est-ce que vous faites du coup?
Alors du coup, ce que nous faisons, c'est que nous avons d'abord créé une agence de développement local pour essayer de prendre toutes les politiques publiques réfléchies à la base avec les populations. Et ça, la décentralisation, dans le cadre de la libre administration, nous le permet. Nous faisons nous-mêmes nos programmes de développement. Et ce qui a fait que, dans nos programmes de développement, nous avons inclus la dimension changement climatique, avant même l'aide internationale. Parce que nous avons mis en place des nouvelles semences, et avec ça, on s'adapte à la nouvelle situation qui s'est créée.
Mais le défi est immense.
Le défi est immense parce que, comme je vous dis, la région de Tombouctou est très vaste et aride. Avant 1973, on était sous l'isoette 500. On est descendu maintenant sous l'isoette 200. Ça veut dire que dans une année, on a moins de 200 mm de pluie. Le fleuve Niger, qui est la source de vie dans le Sahel, les côtes ont baissé de plus de 3 mètres. Donc, au lieu qu'il y ait l'étalement des eaux, maintenant il faut pomper les eaux. Et au-delà de ça, il faut qu'on trouve le moyen de nous occuper de nos jeunes, de tous ceux qui ont perdu leur capital, aussi bien les paysans que les éleveurs, pour ne pas qu'ils soient des proies à l'économie criminelle.
Alors, dans la région de Maradi, donc, que vous présidez, Mahamane Siraj Moussa, au Niger, est-ce que les réalités sont un petit peu similaires?
Oui, la région de Maradi présente des réalités similaires à la région de Tombouctou. Je voudrais préciser que la présence de la région de Maradi à ce sommet mondial démontre l'engagement des autorités de notre pays en général et l'engagement du Conseil régional de Maradi à s'inscrire dans cette dynamique mondiale du changement climatique. Je le disais tantôt, la région de Maradi, d'abord c'est la région qui est située dans la moitié sud, sud-est de notre pays. C'est l'une des régions la plus peuplée de notre pays. Nous sommes à environ 3 400 000 habitants. C'est la région qui a le taux de croissance démographique le plus élevé de notre pays.
Sur des terres très arides.
Sur des terres très arides, mais qui présente aussi trois zones écologiques. Nous avons la zone pastorale, donc le nord de notre région, qui prend les deux tiers de la superficie et qui est carrément une zone désertique. Nous avons la zone agro-pastorale. Donc c'est la zone où on pratique tantôt l'élevage et l'agriculture. Et nous avons la zone agricole, la bande extrêmement sud de notre région. Donc voyez-vous, du coup, vu, n'est-ce pas, la croissance démographique, vu, n'est-ce pas, la population élevée, et aussi, n'est-ce pas, ces contrastes.
Et cette dégradation de l'environnement qui doit largement compliquer la vie des populations.
Ça complique, du coup, n'est-ce pas, la vie de notre population. Mais c'est pourquoi les autorités locales, le conseil régional, ils devront penser, n'est-ce pas, à des solutions préventives.
Lesquelles, par exemple?
Premièrement, c'est de s'inscrire dans une démarche globale, une démarche participative et inclusive.
Mais alors concrètement, ça veut dire quoi en termes d'action?
Concrètement, d'abord, c'est de sensibiliser la population à la base, valoriser nos pratiques endogènes. Vous savez, je vous donne un exemple. Chez nous, bon, comme on dit en général, n'est-ce pas, les effets, disons les causes du changement climatique sont de trois ordres. Ça peut être le transport, l'industrie, l'habitat. Mais tout se résume à l'action humaine. Chez nous particulièrement, c'est aussi la rareté des ressources financières, la recherche de la survie. Prenez concrètement un exemple, nos femmes ont la tradition d'aller chercher le bois, le déboisement, couper le bois pour venir vendre en ville et s'en servir de quoi pour avoir, rendre, n'est-ce pas, les petits besoins. Donc du coup, ça affecte, n'est-ce pas, l'environnement. Donc la première action pour nous, d'abord, c'est de sensibiliser la population, éviter le coupe abusif, n'est-ce pas, du bois. Ça dégrade l'environnement. Deuxièmement, nous avons aussi des actions à l'érosion éolienne, pluviale, mais aussi valoriser ou bien, disons, augmenter par l'action humaine. Là aussi, à travers, n'est-ce pas, les cultures de rente, la mise en jachère, on essaie de sensibiliser la population pour qu'elle puisse adopter ces pratiques-là, tendant, n'est-ce pas, à minimiser les effets néfastes sur l'environnement, sur le climat.
Hakima El Haïté, on se rend bien compte à travers ces témoignages, et notamment avec aussi le témoignage du maire de Dakar, qu'il y a quand même plusieurs niveaux, hein, non seulement de conséquences des changements climatiques, on voit bien qu'à Tombouctou et à Maradi, c'est quand même très très prégnant, et aussi de capacité d'action. C'est sûr que quand on est à Dakar, on attire plus facilement des financements internationaux que quand on est à Tombouctou ou à Maradi, et c'est ça tout l'enjeu dont on va parler dans les mois qui viennent. C'est, il faut que ces pays soient aidés, notamment sur l'aspect financier. Là, on comprend bien l'urgence.
Si mes collègues africains me le permettent, j'aimerais un peu rappeler la situation de l'Afrique en général, parce qu'on est tous dans le groupe africain au niveau des négociations. J'aimerais un peu rappeler les conséquences des changements climatiques sur l'Afrique en général, et puis l'impact des actions locales sur l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Parce qu'au fait, tous ces débats internationaux sur le climat, etc., ils n'ont qu'un seul objectif, c'est garantir les droits les plus alimentaires à nos citoyens au niveau de l'Afrique. Vous savez qu'en Afrique, il y a 300 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a 600 millions d'habitants qui n'ont pas accès à une énergie propres, qui se chauffent avec du bois, de la tourbe ou qui cuisent leurs aliments avec de la tourbe et du bois de feu et qui courent un grand problème au niveau de leur santé. La désertification, elle est à la porte de nos villes, du sud de l'Afrique vers le nord de l'Afrique. Ce n'est que des phénomènes graduels. Donc tous les pays africains, plus ou moins, connaissent les mêmes problèmes. Je voudrais également saluer les initiatives africaines, parce que dans tous les pays, vous entendez vous-même, il y a des initiatives pour s'adapter, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, on fait de notre mieux, mais ce qui est important à souligner, et c'est pour ça que notre position au niveau de l'accord de Paris est claire en tant qu'Africain, ce qui est important, c'est quels que soient les efforts et les initiatives prises en charge par nos territoires et par notre pays, elles resteront insuffisantes si elles ne sont pas prises en considération dans le cadre d'un mouvement de mobilisation et d'engagement mondial qui permet de diminuer la température et la contenir à 2 degrés C. Et c'est pour ça que nous allons à Paris en demandant que l'accord de Paris soit un accord où les responsabilités sont partagées mais différenciées. Et quand on parle de responsabilités différenciées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays développés qui ont eu la responsabilité de polluer et que leur pollution, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont une responsabilité historique, parce que vous savez que les gaz à effet de serre restent 100 ans dans l'atmosphère. Et donc, on demande qu'il y ait un transfert de technologie, qu'il y ait une assistance sur le plan financier, qu'il y ait également des engagements clairs de la part des pays en termes de réduction des gaz à effet de serre.
Merci à tous d'être passés dans C'est pas du vent. Merci à Marc Fichet pour l'installation de ce studio à l'hôtel de la région Rhône-Alpes à Lyon, à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.